je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Plonge tes oreilles dans la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Questions de savoir, l'émission organisée par l'Allier. Je suis Charlotte Barry, vice-présidente aux affaires internes. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai trois invités. Vous pouvez vous présenter.
Ben, bonjour. Moi, c'est Nora Legrand. Je suis en première année de maîtrise en journalisme international. Et puis, je suis aussi coordinatrice des féministes en mouvement de l'Université Laval, la FEMUL.
Excellent. Et les filles?
Oui, moi, c'est Marie-Philippe Paquette. Je suis à la maîtrise en sociologie ici à l'Université Laval et je m'implique au sein du collectif Les Marie Mauve.
Allô, moi, c'est Sophie Marois, également étudiante à la maîtrise en sociologie ici à l'Université Laval et également impliquée dans le collectif Les Marie Mauve. Pour la petite histoire, en fait, Marie-Philippe et moi, on avait participé à la création, à la fondation du comité femmes UL quand on est arrivé sur le campus en 2015, donc à l'automne 2015. Et récemment, on a rebaptisé, renommé le collectif pour l'appeler Les Marie Mauve. Je sais pas si tu veux expliquer un peu notre démarche, Marie.
On s'est rendu compte que Comité Femmes, qui à la base, quand on l'a mis en place, c'était vraiment la suite où il y avait plusieurs associations, plusieurs campus qui développaient des comités femmes. Donc, c'est un peu dans cette lancée-là qu'on l'a fait en 2015. Puis, on s'est rendu compte que, en fait, il y avait certaines personnes qui ne se reconnaissaient pas forcément dans Comité Femmes. Donc, on essayait de trouver un nom qui serait plus inclusif, notamment encore aux identités de genre. On en est venu à la vague des Marie Mauve. Puis ça permet aussi de mettre en lumière certaines interconnexions avec différentes luttes. Donc, on peut penser aux luttes queer, écologistes, anticapitalistes, anticolonialistes. Puis, aussi, on trouvait que les Marie Mauve, il y avait quand même l'idée d'une force, d'une fluidité, d'une compatibilité qui nous intéressait beaucoup.
Excellent. La FEMUL, Nora, pourrais-tu nous expliquer un peu c'est quoi, pour voir un peu les différences là, entre les deux mouvements?
Oui, exactement. Donc, la FEMUL, les féministes en mouvement de l'Université Laval, on organise plusieurs activités sur le campus. Donc, notre but, c'est surtout de faire de la sensibilisation, amener les gens à discuter autour de plusieurs thématiques en lien avec le féminisme. On organise des causeries. Hier soir, on était au foyer. On a invité nos membres à ramener des livres féministes et nous aussi les personnes de l'exécutif pour parler, faire des commentaires, essayer de jaser de l'actualité littéraire féministe aussi. On essaye de faire en sorte aussi que ce soit des événements qui sont interdisciplinaires. Donc, on essaye de donner la parole à tout le monde parce que c'est sûr qu'il y a le féminisme, mais on peut parler aussi de littérature, comme je viens de le dire. On organise un micro ouvert féministe pour aussi donner la parole aux femmes, qu'elles puissent s'exprimer à travers la poésie, à travers des récits qu'elles ont vécus ou des choses comme ça. Donc, le but, c'est d'essayer d'aménager des plateformes où on pourrait se retrouver tout ensemble dans des événements qui sont mixtes aussi. Les hommes sont les bienvenus essayer d'avancer le débat le plus possible et sans mettre les gens dans des cases, sans essayer de mettre des étiquettes, mais tout en restant le plus intersectionnel, en fait. C'est vraiment important qu'on continue de faire converger toutes les luttes contre les discriminations.
Ben merci beaucoup, chère personne. Je suis super contente, pour vrai, que vous soyez avec nous, surtout pour les choses qu'on voulait parler aujourd'hui. Donc, malheureusement, cette semaine, c'est la commémoration de la 30e année de la tragédie à la Polytechnique. Donc, on va parler un peu de Polytechnique, mais également un peu de féminisme. Je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire encore aujourd'hui. Pour la Polytechnique, le 6 décembre 1989, le pays a vraiment changé à tout jamais. 14 femmes sont mortes à l'École polytechnique de Montréal tout simplement parce qu'elles étaient des femmes. Étudiantes brillantes, elles étaient aussi des amies, des sœurs bien-aimées, des filles adorées. Leurs vies interrompues sont devenues une source de tristesse pour une nation endeuillée. Leurs morts ont déclenché un mouvement pan-canadien dénonçant la violence à l'égard des femmes, une réalité restée dans l'ombre pendant trop longtemps. Polly, je me souviens, n'oublions jamais. N'oublions jamais ces 14 femmes, Sonia Pelletier, Anne-Marie Edward, Anne-Marie Lemay, Annie Saint-Arnaud, Annie Turcotte, Barbara Daigneault, Barbara Klunix-Widakiewicz, Geneviève Bergeron, Hélène Cognat, Nathalie Croteau, Michel Richard, Maude Viernick, Maryse Leclerc, Maryse Lagagnère. Ces femmes, elles étaient vraiment pas à la bonne place au bon moment. C'est vraiment un événement tragique. Puis aujourd'hui, on est là justement pour pas que des choses comme ça se reproduisent. Les filles, est-ce que vous aviez des choses à ajouter peut-être sur les événements? Puis peut-être pourquoi le féminisme aujourd'hui là, est encore vraiment d'actualité?
Bien, quand on s'en venait ensemble, Marie et moi, on essayait de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à ce 30e anniversaire. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de cet attentat-là 30 ans plus tard? Et une des choses que moi j'ai vu passer dans l'actualité qui m'a intéressée, c'était comment la ville de Montréal a finalement donné l'étiquette, a choisi d'identifier cet événement-là comme un attentat antiféministe, justement. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans l'introduction que tu as faite, Charlotte, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on reconnaît quand même assez communément que c'est un attentat qui visait les femmes, oui. qu'il y avait une idéologie antiféministe qui motivait cette action-là. Mais quand on regarde la réception médiatique, politique de l'événement en 89 et dans les années qui ont suivi, on se rend compte en fait qu'il y a eu un immense débat au Québec et au Canada et ailleurs dans le monde. Et que ça n'a pas été si simple que ça, finalement, de faire reconnaître le caractère idéologique, politique, misogyne de la tuerie. Et il y a eu vraiment un backlash, en fait, une libération d'une parole masculiniste décomplexée. Et donc, il y a vraiment... Je pense qu'une des choses qu'on peut faire aujourd'hui, c'est reconnaître tout le travail des mouvements féministes, finalement, qui ont eu à lutter pour faire reconnaître le caractère politique d'un attentat comme celui-là. Et donc, ce qui est intéressant, 30 ans plus tard, avec la ville de Montréal qui choisit de parler d'un attentat antiféministe, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment un travail mémoriel qui est fait. Et notamment, ça s'est manifesté par le changement du panneau commémoratif. Donc, c'est un élément qui est symbolique dans la manière dont on se souvient de cet événement-là. Mais quand même, ce qui est particulier, c'est de constater que directement après l'attentat, la plaque ne spécifiait pas nécessairement qu'on parlait de femmes tuées parce qu'elles étaient femmes, ni de l'attentat qui visait, c'est ça, qui avait des motifs idéologiques antiféministes. Et maintenant, c'est fait. Donc maintenant, ce que je lisais dans la presse, c'était qu'en 1999, le texte disait « Ce parc a été baptisé en mémoire des victimes de la tragédie survenue à l'École polytechnique le 6 décembre 1989. Il veut rappeler les valeurs fondamentales du respect et de la non-violence. » Ce qui est tout à fait vrai. Mais la nouvelle version est beaucoup plus précise. Donc, ce que ça dit maintenant, c'est que ce parc a été nommé en mémoire des 14 femmes assassinées lors de l'attentat antiféministe survenu à l'École polytechnique le 6 décembre 1989. Il veut rappeler les valeurs fondamentales du respect et condamner toutes les formes de violence à l'encontre des femmes. Et notamment, il y a... des féministes, des chercheuses qui se sont mobilisées pour ça. On peut penser à Mélissa Blais, mais aussi à Diane Lamoureux. Donc, je pense que c'est une des choses dont on peut se souvenir aujourd'hui.
Puis, effectivement, quand tu parlais le backlash et que Mélissa Blais, Francis Dupuy-Déry ont notamment beaucoup travaillé, était de plus en plus fort. En fait, à partir de 89, là, ils ont documenté la hausse des articles antiféministes qui avaient lieu dans la presse et dans le Soleil, si je ne me trompe pas. Puis c'est vraiment une montée fulgurante. Puis à chaque année, quand on approche la commémoration, il y a aussi plein d'articles antiféministes qui sont écrits. Je ne sais pas si vous en avez vu passer, mais il y en a quand même eu quelques-uns notamment par rapport comme au féminisme en général. En même temps, il y a aussi la sortie de Boys Club de Martine Delvaux. Puis il y a plein d'articles qui, justement, vont pas dans le sens critique le livre de Martine Delvaux, mais qui se passent aussi en ce moment, puis qui dénoncent les supposées violences que vivent les hommes. On assiste beaucoup aussi, puis c'est bien d'en parler, la souffrance que peuvent vivre les hommes, mais on en parle maintenant.
Oui, ben c'est super important ce que tu viens de dire. Le timing, c'est comme si on voulait encore une fois réprimer toute la souffrance des femmes. Puis Polytechnique, c'est une tragédie partagée, oui, par ces femmes-là, par toutes les femmes blessées aussi à ce moment-là, mais par toutes les femmes de la nation en fait. Puis c'est ça que je trouve dommage, c'est que, tu sais, les femmes ont une journée des femmes par année, puis ils ont l'événement Polytechnique, puis c'est tout. Tandis que les hommes, là, je vais pas rentrer trop dans un débat, mais tu sais, à tous les jours, il y a quand même des privilèges, puis tu sais, c'est un peu plate qu'ils essayent de se valoriser à ce moment-là particulièrement.
Puis je voudrais rebondir aussi sur ce que vous avez dit concernant le fait de, de ne pas appeler un chat finalement, de ne pas nommer. Puis aussi par rapport au rôle de la presse là-dedans, parce que d'une part, je pense que ne pas nommer déjà la violence, c'est la banaliser au final. Et le fait que ça ne soit pas reconnu comme tel, ça fait qu'on ne se rendra pas compte de la portée de ce que c'est. Et le rôle des médias là-dedans, d'autre part, c'est que si on n'écrit pas exactement ce qui s'est passé, si on continue d'appeler ça un incident est parvenu à telle heure, tel endroit, c'est pas un incident, c'est une violence. Et il faut vraiment le mentionner et mettre l'accent dessus pour qu'on puisse se rendre compte et qu'on puisse agir en conséquence. Et puis d'ailleurs, on constate encore à l'heure actuelle qu'on a besoin du féminisme parce qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Il y a eu la controverse récemment avec Polanski, avec la sortie de son film. C'est pareil, tu sais, quand on voit des personnalités publiques continuer de le défendre et puis de réagir. Non, ça n'a aucun intérêt parce que c'est une personne qui a été reconnue coupable une première fois. On ne débattra pas sur le reste des affaires, mais il ne faut pas invisibiliser ce qui s'est passé dans le passé. Puis c'est ça, il faut pas. C'est important que les gens soient rendu coupable pour ce qu'ils ont fait et que la presse le mentionne. J'en parle parce que c'est mon domaine, mais je trouve que la presse devrait pas véhiculer ce genre de banalisation, finalement, de la violence comme si c'était juste un film et que c'est une personne qui mérite d'aller encourager dans le box-office. Voilà.
Non, puis 30 ans plus tard, on se rend compte que on a avancé, mais à quel point, tu sais, il y a encore tellement de violences, les femmes autochtones disparues, la violence conjugale, les violences à caractère sexuel, il y en a tellement, puis on se demande, on remarque qu'il y a du progrès qu'on a fait, mais là, c'est toute la question du progrès qui reste à faire.
Ouais, puis on parlait tout à l'heure de langage dépolitisant de la part des médias, mais aussi de la part de personnages politiques, puis par rapport aux exemples que tu viens d'énumérer, Charlotte, il y a une difficulté. Quand on n'utilise pas un langage politique pour parler de ces choses-là, quand on nomme pas un chat, comme tu disais, on reconnaît pas le caractère vraiment systémique de ces violences-là. Donc, il y a tout un langage neutralisé pour parler justement de la violence faite aux femmes et filles autochtones, alors que ce que ces militantes-là revendiquent, c'est qu'on parle d'un génocide, un génocide qui est inscrit dans l'histoire du Québec et du Canada, mais qui se perpétue aujourd'hui parce que ces femmes-là disparaissent et sont tuées dans le silence et la neutralité politique totale. Donc, c'est des choses aussi comme ça dont il faut se rappeler quand on commémore un attentat antiféministe. Et avec l'exemple de la violence conjugale, tout récemment dans la presse encore, justement, il y avait un débat par rapport au fait de parler d'un drame familial. Où est-ce qu'on nomme ça un féminicide? Et il y a beaucoup de mouvements de femmes, notamment en Amérique latine, en Amérique du Sud, qui mobilisent beaucoup, beaucoup ce mot-là de féminicide pour essayer de faire reconnaître le caractère systémique des violences qui sont faites aux femmes.
Bien, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Puis justement, en Amérique latine, là, il y a eu des super gros mouvements. Je ne sais pas si vous avez vu passer la chanson par des Chiliennes, entre autres, qui dénonce justement tout l'État répressif, sa structure. Et là, c'est le violeur, c'est vous, l'oppresseur, c'est vous, en parlant de l'État. Donc, c'est super intéressant. Puis c'est ça, si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça sur YouTube ou sur Facebook. Là, à Paris, on refait la même chose devant la Tour Eiffel. Mais c'est plein de femmes qui ont les yeux bandés puis qui font comme une espèce de chanson, justement. Puis on se rend compte que c'est partout la violence au final. Tu sais, c'est vraiment institutionnalisé, puis il est le temps que ça change.
Puis je voulais aussi souligner quelque chose quand on parle de lutte pour la reconnaissance du caractère politique et haineux des attentats. Je pense aussi qu'il y a un parallèle qui est clair, mais aussi qui est très important à faire avec la tuerie au Centre culturel islamique de Québec en janvier 2017, qui a fait 6 morts, de nombreux blessés. Et je trouve que dans ces deux cas-là, à la fois dans Polytechnique et au Centre culturel islamique de Québec, on retrouve cette difficulté vraiment de la société québécoise à reconnaître une haine qui s'immisce en elle-même. Puis il y a quelque chose de très paradoxal entre des mobilisations citoyennes qui sont fortes, qui revendiquent des changements politiques, des changements médiatiques, culturels, et une classe politique qui refuse de poser des actions concrètes. Donc, je voulais aussi souligner ça. Puis, si on parlait aussi de qu'est-ce qu'on pourrait recommander comme ouvrage, là. Puis, à ce sujet-là, là, sur tous les débats sur la qualification d'un acte, il y a à la fois le livre de Mélissa Blais, « J'haïs les féministes », qui porte vraiment sur les luttes de définition à la suite du 6 décembre 89, mais aussi un livre de Jasbir Puar qui s'appelle « Homo nationalisme » et qui, lui, porte sur comment on va qualifier un attentat d'acte terroriste ou pas selon... justement, comment c'est politiquement défini et selon comment on va comprendre les motivations de son auteur. Donc, je pense que c'est intéressant de plugger ces deux petites références-là aujourd'hui.
Puis justement, tu sais, par rapport à la dépolitisation puis le discours qui dépolitise, pendant Polytechnique ou pendant l'attentat à la mosquée de Québec, il y avait encore cette individualisation-là des violences. Comme quoi, ben c'est une personne qui souffrait, une personne dont on ne s'attendait pas, où là, il y avait le cas d'intimidation pour la mosquée. Mais tout ça, encore une fois, participe à dépolitiser puis retirer le dans quoi s'inscrit systématiquement l'action, le geste politique, qui était... C'était un geste politique de rentrer à Polytechnique puis de tuer 14 femmes. C'était un geste politique de rentrer à la mosquée.
Ouais, puis c'est ça. On met... Puis... On l'a vu dans la presse, toute l'attention a été tournée vers l'auteur de la tragédie plutôt que sur les victimes. Encore aujourd'hui, on entend tellement plein à la radio, il y en a plein des émissions qui parlent de la Polytechnique, des choses ou de la mosquée encore. Puis
essayer de trouver une pathologie à l'agresseur et puis
exactement, plutôt que dire cet acte-là est inacceptable, dénoncer. Puis dire qu'on veut plus que ça se reproduise, c'est tout le temps essayer de minimiser ces gestes-là.
Puis que ça s'inscrit dans un spectre de violence qui est beaucoup plus large, de crimes, de violence envers les femmes, de violence sexuelle, physique, psychologique, etc., tu sais.
Exactement. Super! Cette semaine, il y a beaucoup d'événements commémoratifs sur le campus pour la Polytechnique. Donc, aujourd'hui, au pavillon, Adrien Pouliot, Alexandre Vachon, entre autres, il y a la distribution de rubans blancs en geste commémoratif. Le 5 décembre, il y aura également une murale commémorative qui sera dévoilée, qui est une collaboration entre l'Institut Femmes, Société, Égalité, Équité, l'Association féministe en mouvement de l'Université Laval et le Réseau québécois en études féministes. Toute la semaine également, il y a l'exposition de 30 portraits de femmes remarquables en sciences et génie réalisées par les scientifines, qui sera présentée au hall du pavillon Alexandre Vachon. Donc, je vous conseille d'aller y faire un tour. Et le 6 décembre à 17h, il va y avoir un moment de recueillement dans le cadre de la commémoration pancanadienne qui va se dérouler au Jardin géologique, donc entre les pavillons Adrien Pouliot et Alexandre Vachon. Puis cet événement-là va se dérouler en simultané avec 13 autres universités là, à travers le pays afin de souligner ce triste anniversaire. Donc, c'est ça. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter?
Mais moi, je serais curieuse d'entendre parler de la démarche autour de la murale commémorative. Comment vous avez procédé?
En fait, c'est une étudiante qui s'appelle Marie Pascal qui travaille à l'IFC, l'Institut Femmes et Sociétés, qui nous a approchés pour nous parler de ce projet, de faire une murale en commémoration. Puis c'est ça, on a eu plusieurs rencontres et finalement c'est notre responsable aux finances, Caroline De Villers, qui a pris le projet sous son aile et qui a mené à bien le projet. Puis c'est ça, on a fait un appel à Croquis pour avoir une idée de ce qu'on aimerait. Finalement, on n'a pas reçu tant de croquis que ça. On en a reçu deux. Par la suite, on a discuté entre nous, on a essayé de débattre un peu. On s'est rendu compte qu'on n'avait peut-être pas assez balisé ce qu'on visualisait pour la fresque, en fait, ce qu'on voulait représenter, parce que ce n'est pas juste quelque chose qui va être véhiculé sur les réseaux sociaux, c'est aussi quelque chose qui va rester ancré dans les souterrains jusqu'à, je veux dire, indéfiniment, devant laquelle les gens vont passer continuellement, parce que c'est une fresque qu'on a fait dans le souterrain qui quitte le Desjardins. Okay. Donc c'est quand même un pavillon qui est assez fréquenté. Donc c'est ça, on s'est demandé en fait ce qu'on voulait que les gens ressentent devant cette fresque-là. Et est-ce que c'était de la colère, est-ce que c'était de la tristesse? Puis finalement, ce qu'on voulait, c'était vraiment de rappeler qu'il y a un devoir de mémoire. Mm-hmm. Donc finalement, on a décidé de faire appel à une graphiste, je pense, qui a simplement fait un logo très très sobre avec la couleur violette. D'ailleurs, c'est des fleurs. Mm-hmm. Vous irez voir. Puis il y a écrit la date et puis le devoir de mémoire, évidemment. Donc c'est ça. Puis ça, c'est la fresque a été réalisée par quelques bénévoles. Marie Pascal, qui a lancé le projet, et Caroline de la Fémule. C'était jeudi, vendredi dernier. Puis c'est ça, il va y avoir le dévoilement cette semaine.
Super.
On a très hâte de voir ça.
Ouais.
Oui, donc tout cet événement-là nous rappelle... Ah!
Je m'excuse, je voulais juste... parce que ça me rappelle une citation de Andrea Dworkin. Tu parlais du devoir de mémoire. Puis depuis tantôt, je l'ai comme un peu en tête. Là, donc, qu'elle écrit dans Pouvoir et violence sexiste, publié en 2007. Et donc, chacune d'entre nous a la responsabilité d'être la femme que l'assassin voulait tuer. Il nous faut vivre avec cet honneur, ce courage, pardon. Nous devons repousser la peur, nous devons tenir bon, nous devons créer, nous devons résister et nous devons arrêter de consacrer les 364 autres jours de l'année à oublier tout ce que nous savons. Nous devons nous en souvenir chaque jour et pas seulement le 6 décembre. Nous devons mettre nos vies au service de ce que nous savons et notre résistance au pouvoir masculin.
Ça conclut très bien la tragédie. Justement, il ne faut pas oublier ce qu'on est profondément. On est femme, puis il faut embrasser ce pouvoir-là, en fait, là, je crois qu'on a. Et justement, on peut faire avec ça des parallèles avec le féminisme aujourd'hui. On voit qu'il y a encore, comme j'ai dit, du progrès à faire. Vous, est-ce qu'il y avait, dans votre quotidien, c'est quoi le féminisme pour vous? Comment ça se manifeste?
Ben, je pense que c'est avant tout de... On parle de devoir de mémoire, mais je pense aussi que c'est important de ne pas s'oublier, parce qu'on entend beaucoup de définitions. Et c'est pas juste pour le féminisme, c'est toutes les étiquettes, parce que c'est une étiquette malgré tout. On se définit comme telle, mais on entend beaucoup de choses. Et je crois que le plus dur, c'est de rester fidèle à soi-même et de ne pas avoir peur de se mettre une étiquette et de se l'approprier. Pas de se mettre une étiquette pour ressembler aux autres, parce qu'on a toute notre histoire. On a tous nos vécus, nos valeurs, notre éducation. Donc c'est important de se l'approprier et c'est important aussi... De ne pas invisibiliser la lutte des autres. On parle d'intersectionnalité, c'est qu'en fait, on n'a pas de leçon à donner aux autres. C'est s'il y a une personne qui se définit comme féministe et qui a une vision différente de la tienne, il faut l'accepter et il faut débattre. Je pense que c'est vraiment important de mettre le débat au centre des discussions et un débat respectueux aussi.
Par rapport à qu'est-ce qu'on peut penser comme lutte féministe aujourd'hui, en gardant en tête cet esprit de commémoration, je pense qu'on peut résumer ça comme s'attaquer au continuum de violences faites aux femmes, donc à la fois les violences psychologiques. Il y a un outil qui est sorti récemment par rapport à comment déceler les communications ou le langage violent dans les relations interpersonnelles, notamment les relations amoureuses. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait me rappeler c'était quelle organisation qui avait SOS Violence Conjugale, si je ne me trompe pas. Mais il y a des outils comme ça qui sont faits par rapport aux violences psychologiques, notamment dans les relations amoureuses. Mais donc, c'est un continuum. On parle aussi souvent de violences à caractère sexuel. Là-dessus, il y a beaucoup de mobilisations qui ont été faites sur des campus universitaires, notamment, mais aussi de violences physiques. Ça peut aller jusqu'au féminicide. Donc, essayer de comprendre ça vraiment comme étant dans un continuum. Puis de poser des actions pour le critiquer et le désimbriquer. Mais sinon, par rapport à la vision du féminisme, ça a été l'occasion, avec le changement de nom de notre collectif, de se rappeler un peu finalement comment on définit la lutte qu'on mène, ou les luttes qu'on mène. Puis disons que dans le féminisme, c'est sûr que cette notion d'une lutte qui est menée par des femmes cis, des femmes trans, et souvent avec des personnes non-binaires et des alliés, dans l'objectif, là, comme je le disais, de critiquer, de subvertir ou d'éradiquer carrément le genre en tant que système de différenciation, de hiérarchisation, un système qui cause énormément de violence. Puis ce qui est important pour nous de rappeler, mais comme tu le disais aussi, Nora, c'est comment ces mouvements féministes-là s'inscrivent aussi dans une visée plus large de justice sociale et donc vont toujours s'imbriquer à une multitude d'autres luttes. Donc, je pense qu'en général, les mouvements féministes, en tout cas sur le campus de l'Université Laval, on s'entend qu'il y a vraiment une vision intersectionnelle qui est au cœur de notre objectif, bien, de nos objectifs.
Ben oui, puis c'est... C'est beau à voir que, justement, il y a une pluralité des groupes sur le campus aussi. Moi, j'étais dans la FEMUL auparavant, puis des fois, on était comme, ben pourquoi il y en a autant des groupes? Est-ce que ça serait pas mieux de tout être sous le même groupe, si je peux dire ça comme ça? Puis finalement, on se rend compte que non, parce que, tu sais, il y a tellement de besoins différents, il y a tellement d'approches différentes également. Puis c'est ça qui est la beauté du féminisme, mais tous des mouvements qui finissent par « isme », dans le fond. tu sais, c'est qu'il n'y a pas juste une façon de le faire, il y en a une pluralité, puis on se complète dans nos actions. Fait que, et sur le campus, je crois que vous êtes l'exemple parfait, le Comité Femmes, la FEMUL. Le collectif Marie-Mont.
Justement, ça témoigne d'une pluralité. Puis il y a plein de comités femmes aussi sur le campus. Il
oui,
y a vraiment une tonne d'initiatives. Là.
Exact.
C'est plus démocratique aussi, je pense. On peut s'identifier à qui on veut, mais je pense que ça n'enlève pas moins à l'unité. T'sais, quand on fait des gros événements, les différents comités sont toujours ouverts à collaborer avec nous et eux nous proposent des choses. Donc, mais c'est vrai que c'est important quand même, comme je disais, de rester fidèle à soi-même. Donc ça implique d'avoir plusieurs options, en fait, qui nous conviennent.
Exact. Puis, tu sais, vous ne travaillez pas sur les mêmes actions, vous ne travaillez pas non plus sur au même moment, nécessairement, dans le processus. Donc, je pense qu'on a tout à gagner là, avec une aussi belle pluralité. C'est juste continuer votre beau travail.
C'est gentil. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir comment... tu sais, nous, quand on est arrivé sur le campus de l'Université Laval, ça fait quand même pas si longtemps que ça. Là, c'était en 2015. Puis quand on a voulu mettre sur pied le comité femmes, on a quand même vécu, nous aussi, ce backlash. Tu sais, évidemment, il y avait des gens qui se réjouissaient de notre présence, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui, de un, ne comprenaient pas du tout notre démarche, mais qui étaient très irrités aussi par notre démarche. Puis nous, on a reçu ce type de violence, notamment les violences en ligne, que à peu près toutes les féministes vont subir dans leur existence, malheureusement. Qui témoigne aussi d'une réticence à voir ces mouvements-là sur nos campus, mais aussi dans nos villes. Puis c'est quand même intéressant de voir que, bon, quelques années plus tard, il y a une ouverture, disons, un peu plus grande peut-être, à l'éclosion de plein d'initiatives différentes qui, on peut l'espérer, rencontrent moins de backlash que nous, on l'a rencontré à nos débuts. Puis c'est la même chose dans tous les cégeps. Hein. À chaque fois que il y avait un nouveau comité femmes qui émergeait. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on revendiquait ce nom-là. C'était pour comme se solidariser de toutes ces autres associations-là qui peinaient à émerger. Puis, tu sais, on parle aussi de violence sur les campus. Puis nous, ça nous est arrivé là, de vouloir inviter des féministes à venir nous faire des conférences, puis qu'elles doivent annuler parce qu'elles recevaient des menaces. Tu sais, on n'est quand même pas sorti du bois, là. C'est-à-dire qu'il y a une libération de la parole féministe, mais il y a aussi énormément de violences ou de menaces qui viennent avec le fait de revendiquer cette place-là.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, rapidement, vous pensez que c'est quoi le futur de la lutte, en fait?
Bonne question. Je dirais que de rien. Ben, je prends exemple avec ce qui se passe aujourd'hui là, dans certains pays, mais je pense que c'est qu'on ne prendra jamais rien pour acquis. Peu importe comment ça va évoluer, tout ce qu'on va réussir à améliorer, il ne faudra jamais qu'on le prenne pour acquis parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a des choses qui ont été réalisées 50 ans auparavant qui n'existent plus aujourd'hui, en fait, ou qui sont de plus en plus des droits qui sont retirés. Donc, je pense à l'avortement, je pense à plein de choses. Donc, ça montre bien que ça se peut que dans 70 ans, on nous retire le droit de vote ou qu'on, tu sais, il peut arriver n'importe quoi. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Donc, c'est important de ne jamais cesser. Et je pense que ça va passer aussi à travers l'éducation, de transmettre ça à nos enfants et de qu'ils n'oublient pas, en fait. On rappelle le devoir de mémoire, c'est de ne pas oublier les luttes qui ont été faites et de les perpétuer.
Rapidement.
Je pense que, Sophie, tu le disais beaucoup tantôt, puis on a un peu parlé aussi, mais le futur va se situer aussi dans la reconnaissance des implications des différents systèmes.